Ils arrivent à Jéricho. Alors que Jésus sortait de cette ville avec ses disciples et une foule de gens, un aveugle Bartimée, c'est-à-dire fils de Timée, était assis au bord du chemin et mendiait. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier « Jésus, fils de David, prends pitié de moi !» Beaucoup lui faisaient des reproches pour le faire taire, mais il criait de plus belle « Fils de David, prends pitié de moi !» Jésus s'arrêta et il dit « Appelez-le !» Ils appellent donc l'aveugle et lui disent « Courage, lève-toi, il t'appelle. » Alors, il jeta son manteau, se leva d'un bond et vint vers Jésus. Jésus lui demanda, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui répondit, « Rabouni, ce qui signifie maître. Rabouni, fais que je voie de nouveau. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il retrouva la vue et suivait Jésus sur le chemin. Alors la guérison de l'aveugle Bartimée, c'est la dernière guérison, en tout cas selon Marc, que Jésus va faire avant d'arriver à la croix. Alors il semble que ce soit un moment important, un miracle important pour comprendre qui est Jésus. On remarque d'abord que cet aveugle dérangeait le cortège. Jésus marchait sur la route, Jéricho, Jérusalem, ça se fait en un jour. Mathias l'a fait avec son père quand il était jeune, il était tout content. Il y avait un cortège qui lui suivait Jésus, un aveugle là sur le chemin qui crie, et encore, moi j'ai pas crié vraiment. Et ça dérange. C'est pas dans les habitudes. On a voulu le faire taire. On l'a traité comme les disciples, on traitait les enfants. Vous vous souvenez quand les mères voulaient amener à Jésus leurs enfants pour que Jésus les bénisse, on les a rabroués. Ça se fait pas. Et bien on l'a rabroué. C'est vraiment le même verbe pour tous les deux en grec. Ils ont essayé d'empêcher Bartimée de s'approcher de Jésus. Alors en ce moment, je suis en train de regarder une série américaine. C'est un peu comme le Secret Service qui est là, dégagez, dégagez, il y a le grand maître qui arrive là. Le Secret Service. Ça voudrait dire qu'il y en a certains qui ont le droit d'être proches de Jésus et d'autres pas. Ceux qui crient, ceux qui dérangent, ceux qui ne respectent pas les usages. Comment est-ce qu'on réagirait là maintenant tout de suite, dans ce temple, si quelqu'un entrait en criant? Ou bien si quelqu'un de très mal fagoté, malodorant, arrivé. Ou bien quelqu'un de grossier qui viendrait m'insulter parce que je parle de Dieu. Ou bien un olibrius là, qui serait d'un orang et qui se mettrait à manger son casse-croûte parce qu'il a faim. Comment est-ce qu'on réagirait sincèrement? Sincèrement. Est-ce qu'on lui dirait, viens, 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 Jésus, pour toi aussi? Ou est-ce qu'on dirait, écoute, le casse-croûte, tu le manges dehors? Ou bien... va te laver, tu reviendras. Ou bien, ah non, ici, on ne parle pas grossièrement. En annonçant activement l'évangile, en faisant partie du cortège de Jésus qui parcourt les routes pour annoncer la bonne nouvelle de l'amour de Dieu, nous risquons tous de sortir de notre zone de confort. Nous, Église, et nous, individus. On va peut-être rencontrer des gens qui n'auront pas les codes, nos codes, pour suivre un culte, pour s'adresser à Dieu, pour prier en groupe. Est-ce qu'on est prêt à cela? Moi, je me souviens de notre pasteur Ali, il était très dur, alors il le disait toujours de façon dure, mais il nous disait que si on n'était pas prêt à accueillir la pauvreté du pauvre dans nos rangs, on pouvait partir dans une autre église. Et quand il parlait de la pauvreté du pauvre, c'est parce qu'on était dans un quartier, on faisait de l'évangélisation parmi les prostituées, les routards, les loupards, les mendiants. Il parlait de leur crasse, il parlait de leurs odeurs, il parlait de leur potentiel à voler. Bien sûr, on avait des agapes tous les dimanches, on planquait nos affaires, parce qu'on savait qu'on pouvait nous voler. On pouvait nous manipuler, on pouvait nous séduire. Il y avait des gars qui arrivaient dans la communauté parce qu'il y avait des petites jeunes mignonnes. Quoi de moi aujourd'hui, ici et maintenant? Moi, Sophie, est-ce que je suis prête à me laisser déranger par ceux qui cherchent? Et parfois, qui ne savent même pas ce qu'ils cherchent ou qui ils cherchent. Parce que la Martinet, ici, il cherche, vous êtes d'accord avec moi, il cherche la pitié de Jésus. Il est aveugle, mais il voit bien la bonté de Jésus. Sans doute qu'il en a entendu parler. Vous savez, quand on passe devant des gens qui sont assis par terre, on ne fait pas attention à eux, on raconte des choses. Il ne l'a pas vu, mais il en a entendu parler. Et on ne sait pas s'il attend autre chose que de recouvrer la vue. On nous parle simplement de son besoin vital de voir. Et on peut le comprendre. Il n'a pas dit « je vais me convertir ». Il n'a pas dit « je vais rencontrer Dieu ». Il n'a pas dit « je vais être un bon chrétien ». Non. Il a simplement dit qu'il voulait voir. C'était très égocentré. Il n'a pas dit « donne-moi la sagesse » comme Salomon. Non. « Je veux voir. C'est mon besoin et je veux voir. » Et Jésus s'est arrêté. Il a pris le temps pour regarder celui qui n'avait pas les bons codes. Avez-vous... Alors moi, ça me réjouit à chaque fois que je lis ça. Avez-vous remarqué comment se passe la guérison? Bar, le fils de Timée, s'approche et dit « Prends pitié de moi. » Qu'est-ce que fait Jésus? Il lui demande « Qu'est-ce que tu veux ?»
Attends. Vient lui dire,
Bartimée vient lui dire, prends pitié de moi. Et je trouve que Jésus qui est le chemin, du coup je l'appelle Jésus le chemin, celui qu'on veut imiter, celui qu'on veut prendre comme modèle. On est sûr qu'en l'imitant, on va faire la volonté du Père. Eh bien faisons comme lui. Faisons confiance à notre prochain qu'il sait ce dont il a besoin. Pour le dire avec un vocabulaire emprunté à la psychologie, laissons-le être sujet et pas objet, même objet de notre pitié. Jésus a eu pitié de cet homme, mais il l'a quand même laissé être maître de ce que lui voulait, de ce dont lui avait besoin. Et ça, je trouve ça extraordinaire dans nos relations interhumaines. Nous, qui voulons que les gens reçoivent la grâce de Dieu, la paix de Dieu, comme on l'a dit au début du culte, attendons que les gens la demandent. Attendons qu'ils soient prêts à la recevoir. Ne leur plaquons pas des idées toutes faites sur qui ils sont, enfin, de notre regard sur qui ils sont. Ne réduisons pas une personne à ce que nous pouvons voir d'elle, à ce que nous pensons savoir d'elle. Jésus voit l'être humain dans sa globalité. Entre parenthèses, quand le diable vous susurre à l'oreille que vous n'êtes rien, ne le croyez pas. Ça, c'est pas vrai. Lui peut dire qu'il n'est rien, parce qu'il a cherché à égaler la gloire de Dieu. Vous, nous, je, nous sommes créés pour la gloire de Dieu, ni plus ni moins. Donc, ça, je ferme la parenthèse. Mais ne laissons pas l'ennemi nous susurrer que nous ne sommes rien. Et Jésus, il sait que Bartimée n'est pas rien, et il sait que Bartimée est bien plus qu'un aveugle. Et il sait que Bartimée, il sait ce dont il a besoin. Donc ça me réjouit pour nos relations interpersonnelles, et ça me réjouit aussi pour ma relation avec Dieu. C'est vrai qu'il fut un temps, en tout cas moi j'allais beaucoup dans des réunions de prière, où j'attendais que quelqu'un reçoive quelque chose pour moi. Je ne renie pas et je ne dis pas que ce n'est pas bien. Mais dans ce modèle que Jésus nous donne avec Bartimée, moi j'entends bien que directement je peux dire à Jésus, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça. Je ne suis pas obligée de passer par un autre pour m'adresser à Jésus. Je ne suis pas obligée de passer par un autre pour recevoir de Jésus. Et le Saint-Esprit peut aussi me dire ce dont j'ai besoin. Il peut aussi me révéler mon péché. Il peut me révéler là où je n'avance pas. Je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne me dire dans une parole de connaissance, là maintenant le Seigneur te dit de te mettre à genoux. Moi, ça m'en réjouit d'avoir relu ça. Alors on revient à Bartimée. Bartimée prend pitié de moi, Rabouni, Jésus qui lui dit que veux-tu que je fasse pour toi, et on l'appelle, il se lève, et quand il se lève, il rejette son manteau pour se lever. Il rejette son manteau. Et ce manteau-là, Matthias n'en parlait pas, il y a plein de choses. Mais je me disais, mais ce manteau qu'il rejette, pourquoi Marc nous précise-t-il qu'il rejette son manteau? Ce manteau, il fait écho pour moi aux vêtements de fin lin dont nous parle l'Apocalypse, que nous allons revêtir. Alors pourquoi Bartimée s'est-il défait de ce manteau? Est-ce qu'il trouvait que son manteau était trop sale ou puant et qu'il l'aura enlevé par respect pour Jésus? Tiens, en présence de Jésus, il y a des codes qui se mettent en place. Enfin, c'est pas des codes, c'est des intuitions. Voilà, il y a des évidences. Je ne vais pas m'approcher de quelqu'un comme lui avec un vêtement sale. Je ne sais pas. On ne saura jamais. C'est ma méditation. Est-ce que Bartimée s'en est défait parce qu'il était trop sale et puant? Et puis en même temps, est-ce qu'on met un vêtement de fin lin sur des oripeaux? Est-ce que Bartimée, en s'approchant de Jésus, il a eu l'intuition qu'il revêtirait dans la gloire ce vêtement de fin lin, un vêtement neuf? Et ce manteau viendrait-il parler de cette vieille nature dont il accepte de se dépouiller en présence de Jésus? Avant même d'être guéri, il accepte de se dépouiller de sa vieille nature. Et comme il était mendiant, on peut supposer que son manteau, il l'avait depuis longtemps, qu'il était sale, rapiécé. Et pourtant, un manteau, ça tient chaud, ça protège. Peut-être que dans ses poches, il mettait quelques biens qui pouvaient lui appartenir, les petites pièces qu'il pouvait avoir. Est-ce que Bartimée, à l'approche de Jésus, serait sorti de sa zone de confort pour le rejoindre? Alors, je suppose que tous, on a déjà eu un vêtement bien bouloché, bien râpé, bien usé. Et même si Suzanne fait des merveilles avec sa machine à coudre, ben, on ne change pas. Parce que vraiment, ça nous est confortable. Il y a des fois où quand même on exagère un petit peu. Parce que vraiment, il tient plus debout notre truc. Mais on le garde. Plaisanterie à part. Est-ce que toi, nous sommes prêts aujourd'hui à sortir de notre zone de confort pour suivre Jésus? À quitter nos vieux manteaux? Fin de cette méditation à propos du manteau. Et puis, on va regarder maintenant comment Jésus procède pour guérir Bartimée. Est-ce que d'abord, il lui explique les étapes du salut, comme le feraient beaucoup de chrétiens? Confesse tes péchés, crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé. Est-ce qu'il lui a fait un parcours alpha pour bien lui montrer la totalité de la doctrine? Est-ce qu'il lui a fait un cours d'histoire biblique pour bien lui rappeler, en effet, je suis le fils de David? Non, non, non. Jésus, il ne s'est pas appuyé sur le catéchisme, sur le parcours alpha, sur la confession des péchés. Il s'est appuyé sur la foi de Bartimée, la petite foi de Bartimée. On ne sait pas de quelle hauteur elle était, peut-être que c'était gros comme un grain de sénévé. Jésus, il s'est appuyé sur la foi de Bartimée. Va, ta foi t'a sauvé. j'en reviens à nous, et j'en reviens au code. Est-ce qu'on est prêts, nous, aujourd'hui, à lâcher nos codes, à lâcher nos représentations, à lâcher les schémas qu'on s'est fait du salut, pour rejoindre l'autre là où il en est? Et puis, le texte nous dit que Bartimée se met à suivre Jésus. L'homme riche, lui, est parti, tête basse, n'a pas suivi Jésus. Le mendiant, il n'avait rien, il n'avait que lui, que le petit bout de foi qu'il avait, paf, tout de suite, il est parti vers Jésus. Et il est parti où? Jésus, il est allé de Jérusalem, de Jéricho à Jérusalem, pour y être tué. Il venait de le dire à ses disciples. C'était clair. Il partait à Jérusalem pour être tué. Alors, arrivé à Jérusalem, c'est-à-dire un jour après la guérison de, au maximum, après la guérison de Bartimée, Bartimée a été témoin de l'entrée triomphale de Jésus dans Jérusalem. Hein, le texte, enfin, si vous suivez la lecture, vous verrez entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Jésus monté sur un agneau, les palmes par terre, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Alors là, j'imagine que ça devait bien correspondre à la liesse de Bartimée. Là, ça, lui devait ne pas en venir. D'ailleurs, je crois que c'est Matthieu qui précise que quand Bartimée a été guéri, tout le monde disait c'est super, avec un vocabulaire biblique bien sûr, mais tout le monde devait dire Hosanna, enfin, il y a quelque chose comme ça, une précision. Ça avait développé, ça avait suscité beaucoup de joie, beaucoup d'allégresse. Donc là, Bartimée, paf, il se met à voir et il voit quoi? Jésus monté sur un âne et tout le monde qui salue et qui l'honore et qui. Waouh! Ça, c'est génial! Voir, enfin, moi je le vois bien, avoir dansé avec Anaël, ça a donné une autre louange, une autre dimension à ma louange. On n'est pas que des purs esprits face à Dieu, on est aussi un corps. Donc voilà, que Bartimée ait pu voir la gloire de Dieu manifestée par les autres, ça c'est génial. Mais s'il a continué de. Il y a besoin qu'on prie pour lui? S'il a continué son chemin avec Jésus, qu'est-ce qu'il a attendu après? Eh bien, il a vu Jésus maudire un figuier stérile. Ensuite, il a vu Jésus chasser les vendeurs du temple. Ensuite, il a vu et entendu Jésus annoncer un tas de trucs bizarres, comme par exemple la ruine du temple. Détruisez ce temple et je le reconstruirai en 3 jours. Et puis après, il a vu Jésus mis à l'épreuve par les scribes. Et enfin, il a vu Jésus mis à mort sur la croix. La pensée qui m'est venue, c'est des fois, il vaudrait mieux être sourd que d'entendre ça. Et peut-être que Bartimée s'est dit, waouh, il aurait mieux valu que je reste aveugle plutôt que de voir mon sauveur pendu à une croix. Et pourquoi il m'a rendu la vue? Comment a-t-il pu réagir quand il a vu Jésus torturé, expirant sur la croix, la lance dans son côté? Lui qui a reconnu Jésus comme le fils de David, Rabouni, son maître, il l'a vu livré publiquement à la honte. Comment est-ce possible qu'on mette un homme si bon, si disponible pour les guérisons, dans cet état? Eh bien, pour comprendre la croix, il faut bien que Bartimée et les disciples sortent de leur aveuglement. Et là, je ne parle pas de l'aveuglement des yeux, je parle de l'aveuglement spirituel. Nous ne pouvons pas comprendre la croix avec notre propre intelligence. C'est au-dessus de nos moyens. Et l'Évangile nous dit bien que les disciples ne comprenaient rien à ce que Jésus disait quand il parlait de la croix. Elle les a pris. Pourtant, Jésus en avait parlé, et pourtant, elle les a surprises. Et nous aussi, parfois dans notre vie, on est surpris par la croix qui se manifeste pour nous aujourd'hui, par exemple pour la persécution. On n'y croit pas vraiment, on croit qu'on sera protégé de la persécution. Mais Dieu ne nous protège pas de l'épreuve, vous le savez. Il nous protège dans l'épreuve. penser avec cet exemple de Bartimée que Dieu a donné la vue à un aveugle pour que cet aveugle puisse voir Dieu à l'œuvre sur la croix. Et l'œuvre de Dieu, c'est qu'il aime chaque être humain, il veut l'attirer à lui, non par contrainte, mais par amour. C'est ça que nous avons à annoncer. Peut-être même avant la confession des péchés. Dieu veut attirer chaque être humain, par amour, pas par crainte, pas par contrainte, pas par chantage, juste par amour. C'est pour ça que Jésus est mort sur la croix. Alors, Bartimée, on peut le prendre comme un exemple de ce que chaque personne doit vivre dans la vie chrétienne. Nous commençons notre vie chrétienne dans un cœur à cœur avec Dieu, pas obligé d'avoir une interpellation de quelqu'un d'autre, juste un cœur à cœur avec Dieu. Nous avons découvert le Messie, Yeshua, le fils de David, dans toute sa splendeur, dans toute sa disponibilité. Ça, c'est le début de notre vie chrétienne. Et voilà que comme Bartimée, nous suivons Jésus qui va être crucifié à la croix. Car c'est ça, être un disciple de Jésus. Le suivre jusqu'à la croix. Et accepter notre croix aujourd'hui qui ne remplacera jamais celle de Jésus, jamais. Mais l'accepter comme étant aussi pour Dieu l'occasion de nous suivre, de nous accompagner dans l'épreuve. Et ça, c'est certain, et je finis avec ça. Nous avons vraiment besoin qu'il nous ouvre la vue pour voir ce que lui veut que nous voyons aujourd'hui. Nous avons besoin que Dieu nous ouvre la vue pour que nous voyons ce qu'il veut que nous voyons aujourd'hui. Amen.